grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Que racontent nos photos de famille? C'est notre thème ce matin. Que révèlent ces clichés de nos tribus intimes? Que dévoilent-ils de notre place en son sein? Pourquoi les albums photos familiaux sont-ils les objets que l'on sauve, hein, bien souvent en premier en cas de catastrophe, leur perte nous rendant à jamais inconsolables? Ces albums qui nous figent avant que le temps nous fige, comme le chante Aldebert. Ces albums photos qui racontent nos joies, nos jours heureux, mais également nos secrets, les non-dits et les absences. Pourquoi certaines familles ne prennent quasiment jamais de photos alors que d'autres mitraillent chaque événement? Est-il bon de se replonger avec nostalgie dans ces archives sentimentales, argentiques ou numériques? Avec nous ce matin, la psychothérapeute Christine Ulivucci, la journaliste Christina Pelleduel et la romancière Isabelle Monin. N'hésitez pas à témoigner ce matin sur notre page Facebook. Bonjour Guillaumette Odissino.
Bonjour Ali.
Vous m'avez envoyé une photo de vous il y a 20 ans. Ben dis donc. Bah dis donc.
Ouais, j'étais pas mal à l'époque.
Ouais, je dois bien l'avouer.
Non, je veux juste te dire une chose, c'est que vous parlez d'albums photos, vous avez bien de la chance. Moi, c'est des pochettes en vrac, avec tout qui dégouline partout, et cette promesse que quand je serai encore plus vieille, je ferai des albums.
L'esprit d'escalier de Guillemette Odissino tout au long de cette émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébi.
Alors, pour évoquer ces photos de famille qui nous racontent, trois invités. Bonjour Christine Ulivucci.
Bonjour Ali.
Vous exercez la profession de psychothérapeute analytique et transgénérationnelle et vous avez publié en poche chez Payot ces photos qui nous parlent, une relecture de la mémoire familiale. C'est quoi en deux mots la psychothérapie transgénérationnelle?
La psychanalyse transgénérationnelle, c'est une approche qui permet de reconsidérer, on va dire, une problématique actuelle à la lumière non seulement de son vécu personnel, c'est-à-dire dans son cercle familial, papa, maman, etc., fratrie, mais à la lumière de tout ce qui a pu être vécu et mal élaboré dans des générations antérieures.
Bonjour Isabelle Monin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et romancière et vous avez publié avec Alex Baupin Les gens dans l'enveloppe, c'est publié chez Lattès. Bonjour Christine Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et chef de la rubrique Livres à Psychologie Magazine. Alors Christine Ulivucci, pourquoi utilisez-vous la photo de famille comme outil thérapeutique?
Alors la photo m'apparaît comme un outil intéressant dans la mesure où les photos de famille, de manière générale, sont des plaques de révélation d'un inconscient familial qui va émerger à travers une confrontation avec le passé. Et puis parce que ces photos de famille, on peut les considérer comme des capsules spatio-temporelles dans lesquelles se rejouent à la fois le passé qui vient parasiter le présent et qui permet de reconsidérer le passé à partir d'une observation d'un sujet qui est là dans son actualité.
C'est quoi l'inconscient familial?
Alors l'inconscient familial, on va dire que c'est tout ce
qui est
la question.
Oui, parce que vous avez la conviction que ces albums ces photos de famille racontent quelque chose d'essentiel sur l'inconscient familial.
C'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ce sont des vecteurs de cette mémoire familiale qui parfois est très, qui est dans une transmission explicite, mais qui est parfois dans une transmission implicite. C'est-à-dire que, au vu de ces images, vont remonter déjà certains souvenirs, vont permettre d'émerger ce qui est invisible derrière, on va dire, une façade qui est donnée, parce que la famille donne une image idyllique souvent d'elle-même, ou en tout cas une façade de ce qu'elle voudrait bien montrer à travers un roman familial. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre de l'invisible qui remonte.
Christine Pelleduel, la photo de famille fixe pour l'éternité une appartenance à une famille, de construire une histoire commune.
Oui, bien sûr, c'est un élément très important. C'est d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est pour ça que c'est si difficile, ou pas, d'ailleurs, Isabelle Monin va pouvoir en parler, mais c'est si difficile de se défaire des photos. Guillemette l'a dit aussi, également de les trier, parce qu'il n'y a pas, et ça, Christine Ulivucci le dit très bien dans son livre, il n'y a pas que la photo elle-même, il y a la manière dont les photos se présentent, c'est-à-dire dans un album, en vrac, dans des pochettes, perdues, éparpillées, confiées à une une seule personne. Tout ça a un sens. Alors, je ne dis pas une signification, mais un sens. Et c'est justement ce que dit Christine Ulivucci qui est très intéressant, c'est que les photos pendant une cure viennent comme support d'interprétation et d'élaboration de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que l'interprétation qu'on fait de la photo est exacte de manière historique, mais elle est exacte dans l'histoire de la personne qui est concernée par la thérapie.
C'est
très intéressant.
Et en fait, on se dit souvent que dans une famille, il y a des mises en scène, il y a des, comment dire, des rôles au sens très très attribués à certaines personnes ou dans la fratrie, etc. Souvent, la photo, en fait, même inconsciemment, elle immobilise et elle capte cette mise en scène au sens propre. C'est-à-dire que quand on regarde souvent des photos de mariage, on peut voir à quel endroit est situé le cadet, à quel endroit papa et maman, si papa et maman posent ensemble, pas ensemble, etc., etc. Donc même ça, dans la manière de composer dans le cadre, de se mettre dans le cadre, il y a déjà énormément d'informations.
On reviendra tout à l'heure sur cette histoire de place dans la famille.
Au premier dernier verre, nous voilà tous les deux, seuls devant les clichés du grand album bleu. Elle expose ce drôle de bestiaire que renferment les photos d'une famille ordinaire. « 1934, ma grand-mère en landau, on dit que je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Cette maison aura vu des enfants défiler. »
Alors Aldebert chante que les albums photos nous figent avant que le temps nous fige. Vous, Isabelle Monin, vous avez redonné vie à des photos de famille. En juin 2012, vous achetez un lot de 250 photographies de famille sur un site de vente aux enchères. Des photos souvent banales, mal cadrées, parfois à contre-jour, et qui vous émeuvent terriblement.
Ouais. Elles sont très, très ratées, globalement. Et du coup, elles sont très émouvantes. Parce que je crois que ce qui m'émeut, c'est qu'elles sont extrêmement familières, même si je ne sais absolument pas qui sont les gens qui sont sur ces photos, mais je vois que c'est une famille, je vais dire moyenne, parce que je trouve pas d'autres termes qui soient pas péjoratifs, mais voilà, une famille comme énormément de familles. Les photos sont ratées, donc ça veut dire que la personne qui a pris, ou les personnes qui ont pris ces photos n'étaient pas des professionnels de la photo, n'avaient pas une intention artistique, ou alors vraiment, c'était des artistes ratés, mais qu'ils voulaient, voilà, figer un moment.
C'est la fragilité de ces photos, leur côté flou, mal cadré, qui fait toute leur beauté?
Pour moi, oui. Elles sont bien plus belles que des photos qu'on pourrait exposer dans des musées, même si je dois dire tout de suite qu'il y a énormément maintenant de photos vernaculaires, c'est comme ça qu'on appelle ces photos, hein, qui sont des photos ordinaires, qui sont utilisées comme matériaux par les artistes, les plasticiens et tout ça. Il y a eu à Arles, il y a 3-4 ans, je pense, aux rencontres internationales de la photo, tout un tas d'expositions sur ces photos-là. Donc elles ont une valeur qui... Moi, en fait, ce qui m'intéressait, quand je les ai achetées, je savais pas pourquoi je les achetais, mais je crois qu'au fond, ce qui m'intéressait, c'est qu'elles étaient à la fois intimes, très intimes, photos de famille, voilà. Elles sont pas destinées à être vues normalement par des gens qui ne connaissent pas ces gens, et en même temps, elles sont extrêmement universelles, c'est-à-dire qu'elles sont tellement ordinaires qu'elles pourraient être des photos de tout un chacun.
Ce qui est très beau, et vous l'écrivez, en les ratant, le photographe s'immisce dans les photographies.
Bien sûr. Il a bougé, c'est flou, mais alors donc il y a quelqu'un qui a bougé. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. La gamine a mis le flash qui a complètement explosé les yeux des animaux qu'elle a pris et qui du coup ont des yeux rouges horribles. Ça veut dire qu'il y avait une gamine. Enfin, vous voyez, il y a une présence qui est évidemment celle aussi de la personne qui a pris la photo.
Alors, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez imaginé la vie des personnages sur ces photos et puis ensuite, vous avez enquêté.
Oui, pour les retrouver. Oui, je voulais, en fait, l'idée était très simple, c'était raconter la vie de ces gens. Les photos, alors Guimette tout à l'heure disait, est-ce qu'on fait des albums, est-ce qu'on les laisse en vrac? Là, en l'occurrence, elles sont arrivées dans une enveloppe, totalement dans le désordre. Il y avait du Polaroid, il y avait de la photo argentique. Il n'y a que des photos argentiques, évidemment, sinon je les aurais pas, sans doute... Je n'aurais pas pu les récupérer. Et je me suis dit, il faut que je raconte la vie de ces gens, soit en l'inventant, ce que je sais faire, puisque je suis romancière, soit... Puis, une fois que je les aurais inventés, comme j'ai été journaliste dans une autre vie, je suis capable de faire une enquête et de les retrouver. C'est ce que j'ai fait. J'ai suivi mon idée qui était assez simple. Voilà.
Christine Olivucci, on peut se demander comment ces biens familiaux précieux, achetés par Isabelle Monin, se sont retrouvés chez un brocanteur sur un site en ligne. Quelqu'un s'est séparé de ces photos de famille. Quelqu'un a démembré un album.
Oui, il y a beaucoup d'albums qui se retrouvent, en effet, on va dire, à la vente. Hein. On peut se séparer de ces photos. J'aimerais rebondir sur la question du ratage de la photo. C'est quelque chose que l'on prend aussi en compte hein, dans un travail thérapeutique, c'est-à-dire que ce ratage de la photo, du point de vue de celui qui prend la photo et de ce qui apparaît à ce moment-là, que ce soit de têtes coupées, d'ombres portées, etc., vient parler d'une forme, on peut l'interpréter comme une forme de lapsus qui va être aussi révélateur de ce qui se joue dans ce contexte familial.
Et puis ces photos de famille que vous avez achetées, Isabelle Monin, bah ce sont des pièces à conviction plus ou moins énigmatiques.
Il n'y a pas de crime en l'occurrence, mais...
Oh, vous ne savez pas.
Non, je crois qu'il n'y a pas de crime. Enfin, après, on peut s'interroger symbolique. Sur qu'est-ce qu'un crime.
Symbolique.
Elles m'ont servi en tout cas de support à la fois... pour lancer mon imaginaire. Donc ça, c'était leur première utilité pour moi, vraiment. C'est-à-dire essayer d'imaginer la vie de ces gens. Et puis, effectivement, dans un second temps, elles m'ont servi d'indice. C'est-à-dire là, je les regardais moins avec une sensibilité qui est celle de la romancière qu'avec presque un œil de détective. C'est-à-dire, je cherchais le détail qui pourrait m'emmener vers eux. Parce que vraiment, il n'y avait pas de légende aux photos, donc je ne savais pas qui étaient ces gens, je ne savais pas où ils habitaient, même si bon, j'avais là-dessus un petit indice, mais j'avais une région assez vaste. Donc oui, je m'en suis servi comme indice.
Christine Lapellé-Douane.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est d'avoir réussi justement à remonter la piste et à retrouver des membres de cette famille et à reconstituer l'histoire. Alors pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de, j'allais dire, de la magie. C'est pas de la magie, mais du hasard extraordinaire, c'est presque de la sérendipité, la chance d'un hasard heureux. C'est ce qui est arrivé et il se produit quelque chose. Enfin, je trouve ce livre vraiment remarquable. Moi, j'invite les auditeurs à le lire et à le savourer parce que les photos, évidemment, sont dans le livre. Et c'est à la fois très quotidien et très extraordinaire.
Allez, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Claire Destacan, Clara Marliot et Julien Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Je vous propose d'écouter une chanson de 1987. Cette année-là naissait le footballeur Lionel Messi et disparaissait Fred Astaire. Belle journée à l'écoute de France Inter. terrain, Strand Darby interprétait ça à Nurnell.
C'est un cadeau pour être heureux tout de suite avec des photos de Noël en couleur qui se développent là, sous vos yeux, en 60 secondes.
Grand bien vous fasse.
60 secondes seulement pour retrouver toute la joie de Noël.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin aux photos de famille. Que révèlent-elles de nous et de nos liens familiaux?
C'est ma mère avec sa maman et son papa.
C'est le trésor de Laurence. Des photos patinées, jaunies, mais uniques. Ici, le patriarche assis avec ses enfants. Là, une grand-mère qui pose en Grèce à Salonique. Des visages souvent austères, mais qui ont le pouvoir de réchauffer les cœurs. Pour laisser une trace à son tour, Laurence se prête au jeu.
Avec ou sans lunettes?
Fini les familles sages comme des images qui retiennent leur souffle, ne bougent pas d'un pouce, jusqu'à la sortie du fameux petit oiseau. Les photos de famille se sont développées lors de la Première Guerre mondiale. Elles donnent du courage aux soldats seuls au front. Et au moins sur le papier, les familles résistent au temps. La profusion des selfies a ressuscité le goût pour les belles photos de famille.
On voit beaucoup de familles qui réalisent des portraits avec les grands-parents, les parents, les petits-enfants, que toutes les générations soient réunies pour créer du lien, pour créer de la valeur. On se rend compte que finalement, on est en quête de vrai.
On me regarde, coucou.
Extrait du 12-13 de France 3 en novembre 2015. Alors c'est un drame quand on perd ses trésors, quand ces trésors sont détruits. Une étude britannique révèle que, qu'en cas d'incendie, les choses essentielles à sauver sont évidemment les êtres humains, les animaux et les photographies. Christine Livucci, je rappelle que vous avez publié en poche ces photos qui nous parlent.
Oui, les photos qui constituent des traces, la trace d'une existence, donc une forme de socle sur lequel ça peut s'appuyer une filiation,
Et
une origine.
Les albums de famille matérialisent l'histoire de la famille. Toutes les photos de famille révèlent des pans d'histoire que l'on ne soupçonnait pas ou que l'on ne prenait pas assez en compte.
Oui, alors pas forcément toutes les photos, mais en effet, en travaillant à partir de photos, peuvent émerger en effet des pans de l'histoire familiale qui n'ont pas été parlés, et donc ces photos vont servir de support de parole. Sur certaines photos vont apparaître certains détails, un petit peu comme ce que Roland Barthes a appelé le punctum de la photo, c'est-à-dire quelque chose qui vient me poindre dans mon présent et qui d'un seul coup fait sens, que l'on peut aussi considérer comme quelque chose d'une résurgence, d'une survivance de quelque chose de passé et qui vient un petit peu comme un retour de ce qui a été refoulé, caché, enfoui dans des strates inconscientes, vient faire retour dans le présent et permettre de mieux comprendre ce qu'a été le système familial, à la fois dans son fonctionnement et aussi, bien évidemment, dans son dysfonctionnement. C'est-à-dire que toutes les interactions entre les personnes, l'absence ou la surreprésentation de certains, l'espacement entre chaque membre de la famille, le lien parent-enfant est tout à fait visible, et ça permet de donner une visualité à ce qui est parlé, par exemple, en séance, et vient faire preuve. On parlait de pièces à conviction tout à l'heure, Isabelle en parlait, je l'aborde aussi à un moment donné, c'est-à-dire que ça vient prouver certains fonctionnements familiaux, et notamment, c'est très important quand on travaille sur la perversion du lien dans le système familial.
Isabelle Monin, je rappelle que vous avez publié « Les gens dans l'enveloppe ».
Non, j'étais en train de penser, d'écouter attentivement ce qu'il disait, et il y a moi quelque chose qui me touche et qui me trouble, c'est que les photos de famille, si on parle des photos des générations antérieures, je les trouve très vite périmées, au sens où si personne n'a pris soin d'écrire qui est qui sur la photo, très très vite, enfin en tout cas, j'ai fait l'expérience dans ma propre famille, très très vite, plus personne n'est capable de dire qui est cette grosse dame qui fait toujours la tronche, ou qui est ce jeune garçon. Et donc, je le dis en rigolant, mais en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans. Je crois que les photos, elles disent à la fois notre existence, mais aussi notre disparition dans le même moment. La photo, elle est prise à une seconde précise et elle attrape cette seconde, mais elle la chasse en même temps. De la même manière, c'est un peu comme quand on va dans un cimetière. Si personne n'est capable de dire qui sont les gens qui sont enterrés là, Alors, ils ont complètement disparu, mais aussi, ils appartiennent à tout le monde, du coup. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis.
Avec un album de famille, on lutte contre le temps. Christine Rivucci, nous prenons des photos pour contrer la mort qui nous ensevelira de toute façon. Et d'ailleurs, moi, dans album, j'entends embaume.
Intéressant.
Je vais m'allonger sur le divan.
Il y a de la place.
Oui, alors bon, l'album a été conçu à l'origine comme une forme de catalogage et d'exposition sociale aussi, hein, de sa famille, de ses lignées, de son origine. Et bien sûr, c'est garder une trace, mais en faire aussi un objet qui va donner une image très précise. Parce que l'agencement des albums, ça, on peut travailler dessus aussi, c'est-à-dire avec quoi ça démarre, à quel moment ça démarre, à quel moment tel enfant apparaît, la naissance de tel enfant apparaît. Enfin, tout l'agencement de l'album, les doublons, les personnes absentes, etc., sont une mine pour réinterpréter ce qui se joue dans la famille.
J'aimerais qu'on s'attarde tout de même sur cette mort indirectement mise en scène dans les albums de famille Christina Pelédouelle. Oui. On retrouve, quand on ouvre un album de famille, tous ces êtres disparus que l'on a aimés. Et en regardant un album, passé et présent s'entremêlent. Christine Rivucci parlait tout à l'heure de capsules spatio-temporelles. C'est ça qui est assez fascinant avec l'album de famille.
Oui, c'est fascinant et ça peut aussi être terrible de regarder les photos des disparus, surtout lorsqu'il s'agit de disparitions dramatiques ou de deuils qui n'ont pas été suffisamment, enfin qui ont du mal à passer. Hein. Ça peut être vraiment extrêmement douloureux et poser des questions. Pourquoi est-ce que quand on montre les albums ou les photos aux enfants, voilà ton grand-père, tu ne l'as jamais connu, voilà. Et les enfants posent des questions justement sur les morts. Ça permet également, alors il n'y a pas que le côté douloureux, il y a aussi ce principe d'élaboration, de reconstitution de l'histoire familiale.
Du roman familial.
Du roman familial qui permet, les photos sont des supports extrêmement importants. Et à ce sujet, je voudrais juste faire une petite incise, c'est que vous parliez tout à l'heure du drame des albums perdus, ça vient aussi cogner l'histoire du deuil et de la disparition, et en particulier je pense aux familles d'immigrés, les familles qui ont connu des drames terribles comme la Shoah et d'autres catastrophes humanitaires. Les albums, les photos ont disparu, et c'est un des points les plus douloureux. Quand on parle avec les descendants de familles qui ont subi ce genre de choses, c'est vraiment une des choses qui revient le plus souvent dans la conversation. Je n'ai plus de photos, je n'ai plus qu'une seule photo.
Guillemette Odissino.
Oui, mais en fait, c'est ces moments familiaux qu'on retrouve, parce que c'est pas que des gens éventuellement disparus d'ailleurs qu'on voit, ce sont des moments sur ces photos. C'est l'anniversaire de notre maman, c'est une fête familiale autour de notre grand-père qui est pas. Donc en fait, ce sont des moments. Donc c'est d'autant plus douloureux ou joyeux, ça dépend comment on se situe, mais
ça peut être les deux, ça s'appelle la nostalgie.
Parce que se souvenir de quelqu'un, bien sûr, qu'on a aimé, mais être replongé à cause de ce petit rectangle en argentique dans un moment qui a été un moment de bonheur et que par définition on ne pourra plus revivre avec cette personne, c'est un petit déchirement là, à un moment là dans la poitrine. Donc je pense que c'est ça, la douleur elle est particulièrement là. Toutes ces photos de Noël, les sapins, les paquets partout, les gens avec des sourires quoi. Donc en fait c'est ce souvenir de fête qu'on ne fêtera plus avec eux.
Mais pas seulement, je peux parler de mon expérience personnelle. Il y a une photo de mes enfants, une photo particulièrement jolie, où ils sont tous les deux assis côte à côte dans un jardin. Ils sont tout petits et je ne peux pas regarder cette photo sans avoir un sentiment de tristesse et de nostalgie terrible qui m'envahit, parce que ce moment-là de leur enfance, ce moment excessivement précieux, ça y est, il a disparu, c'est fini, il ne reviendra plus jamais. Et c'est très étrange, c'est cette photo en particulier.
Guillemette Odissino.
Vous avez remarqué maintenant sur Instagram, sur les réseaux sociaux, les gens postent des photos de leurs photos. C'est-à-dire qu'ils vont photographier une vieille photo un petit peu jaunie de leur maman, sublime quand elle avait 25 ans, et la poste sur les réseaux sociaux en disant oh, c'était maman, qu'est-ce qu'elle était jolie, etc. Ou poste des photos d'eux quand ils étaient bébés et les repose. Donc en fait, c'est une deuxième photo qu'ils remontrent, enfin, ils redonnent une nouvelle vie, disons technologique, à une vieille photo argentique.
Isabelle Monin.
Je pense que l'usage de la photo, il est en train de. Enfin, ça fait quelques années, mais c'est en train de totalement être bousculée par le numérique, par le fait que on photographie maintenant tout. Tout à l'heure, on disait, c'est vrai que dans les albums anciens, il y a plutôt des occasions de fête, la communion, le Noël, etc. Là, on passe nos journées à prendre des photos du gobelet, de...
Et d'ailleurs, Anne-Marie Gara, dans son livre « Photos de famille », nous rappelle qu'avant l'avènement du numérique, eh ben, le dilemme visuel précédait le déclenchement. Le compte prudent des prises, limité à 24 ou 36 prises, intimait circonspection, calcul, retenue et laissait la frustration d'image à jamais renoncer, absente de la pellicule. Je la cite.
Oui, oui, exactement. Il y avait, on choisissait le moment où on allait déclencher l'objectif. Là, on peut mitrailler toute la journée. Le paradoxe, je trouve, c'est qu'on passe notre vie à prendre des photos, mais on les conserve mal ou pas. Et donc, qu'est-ce qui va rester de tous ces instants? Ils sont encore plus disparaissants que les photos d'avant, je pense.
On les prend, mais on ne les regarde pas.
On fait pas d'album. Enfin, peut-être des gens en font, mais... Elles sont vouées à disparaître très vite, elles sont éphémères.
Christine Ulivucci, oui. Sur toutes ces photographies numériques emprisonnées dans la mémoire des disques durs, dans les clés USB, à l'abri des regards. Alors, le partage est évidemment certes, possible via des fichiers
oui,
envoyés, mais c'est pas pareil.
C'est-à-dire, je pense que la photo, autant il y avait un partage autour des photos avant, autour des albums, et dans intrafamilial, on va dire, ou évidemment les fameuses projections de diapositives qui étaient prodigieusement ennuyeuses.
Mais
voilà, quand ça durait trop longtemps. Mais disons que maintenant, la photo est quand même un support de partage beaucoup plus large, en effet. Après. La question de la compulsion, parce qu'il peut y avoir évidemment compulsion, que ce soit pour les selfies. Hier, je voyais aussi une jeune femme qui se prenait en photo en selfie, après qui montrait le selfie à son copain qui était juste en face. Enfin, un redoublement en permanence de son image. Enfin, ça prend évidemment des proportions un petit peu sur lesquelles on peut s'interroger, en tout cas. Mais néanmoins, je considère quand même l'acte photographique comme quelque chose d'un... Ce que développe aussi Tisseron, hein, d'un positionnement du sujet. C'est-à-dire que en prenant... Ça fait partie aussi d'un travail thérapeutique, c'est-à-dire se positionner en tant que sujet par rapport à un événement, s'inscrire dans sa vie. Ça peut accompagner un travail thérapeutique de prendre des photos. Alors évidemment, c'est une trace d'existence, c'est montrer que j'existe, etc. Mais néanmoins, ça participe du vivant. Et que l'on les regarde ou qu'on ne les regarde pas, peu importe, ça existait déjà avec les photos argentiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'allaient même pas chercher leurs photos. C'est l'acte lui-même qui est important.
Mais il y avait un plaisir hein, de laisser la pellicule chez le photographe, de récupérer le tirage, et ensuite de revivre les événements, de les réinventer, de les enjoliver, des récits qui s'enrichissent plus ou moins fidèles à la réalité. Christina Pelledouelle, sur, par exemple, ces interprétations différentes d'une même photo.
Ah oui, ça c'est fascinant. Dans la famille, une même photo qui est contemplée par plusieurs personnes suscite des commentaires radicalement différents. Et oui, ce qui est normal, puisque chacun évidemment vit l'histoire de la famille, le récit familial, de manière différente. Et on sait bien que deux enfants, c'est toujours la vieille remarque. Mais comment se fait-il? Ils ont été élevés de la même manière? Eh bien non, bien sûr que non. Donc c'est exactement la même chose. On regarde les photos et personne n'a vécu le même événement de la même manière.
Isabelle Monin.
C'est la question du point de vue, en fait.
Bien sûr.
Qui est aussi celle que se pose le photographe quand il s'apprête à prendre la photo.
Et qui
d'où
est
celle il regarde. Et qui est évidemment celle du romancier. Mais oui, évidemment, l'interprétation. C'est pour ça, ce qui m'intéressait moi dans mon travail aussi, c'était d'interroger la réalité. Ou la vérité d'une photo, est-ce que ça existe? En fait, non, hein, je crois pas du tout. Mais c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est un objet tangible qui fige un instant, et en réalité la vérité de l'instant elle est tellement multiple qu'on peut pas décider qu'il y en a qu'une.
Christine Ulivucci, commenter l'album photo, c'est aussi important que le feuilletage?
Le commenter, c'est-à-dire écrire sur
non,
l'album?
Non, le commenter en famille.
Oui, bien sûr. Oui, c'est, l'album, à la base, est aussi un support de partage de paroles, de transmission, justement, d'un vécu. C'est-à-dire que les photos vont être là comme support pour une narration. Pour une narration à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses amis. Voilà, c'est un support de narration.
Et c'est un support de narration, éventuellement, enfin de réconciliation. Dans beaucoup de familles recomposées, quand on se trimballe avec les photos de ses enfants, mais avec le père de ses enfants avec lequel on ne vit plus, et qu'ensuite, après, les enfants demandent à revoir des photos, il y a soudainement, en fait, une disons, de rapport un peu compliqué ou un peu conflictuel. Là, c'est très bon, je trouve, c'est très thérapeutique, pour le coup, parce que là, on est obligé, en fait, de reprendre en compte ces souvenirs-là, de les regarder avec bonheur, parce que c'est quand même très rare qu'on ouvre un album photo pour dire du mal des gens qui sont dedans.
Donc, ça dépend.
Ça peut arriver comme ça, une petite pique de temps en temps. Quelle est donc la grosse dame du tout à l'heure. Mais à part ça, je veux dire, c'est forcément un instant de bonheur et de partage. Donc, dans les cas où il y a des familles un peu disloquées ou des familles à problème, ça force aussi à avoir un discours envers les enfants et envers la descendance qui est un discours apaisé. Je trouve ça très beau, ça.
Oui, mais Guillemette, il existe aussi ces albums où on voit des photos déchirées, où on a biffé avec un feutre ou un stylo la tête du personnage qu'on n'a plus envie de voir dans l'album.
Ah, ça, je ne peux pas témoigner.
Oui, ça, j'en ai vu beaucoup.
On réécrit l'histoire.
Ça existe à ce point, ah, bien ça, sûr, des violences.
On peut couper un couple, on peut gribouiller le visage de quelqu'un. Ça permet d'éliminer certaines personnes de l'histoire.
Vous avez vu ça, Isabelle Monin, dans les photos que vous avez récupérées?
Non, mais enfin, moi, j'ai vu quelque chose qui était du même ordre, on va dire, c'est que sur les photos, il y avait donc 250 photos d'une même famille, et il n'y avait pas une seule fois la mère de la petite fille qui était au centre de la plupart des photos.
C'est peut-être elle qui prenait les photos.
Non, je pense pas.
Parce que ça aussi, hein, quand dans la famille on est le préposé aux photos, on n'est jamais dessus, du coup.
Non, là, en l'occurrence.
C'est agaçant.
C'est vrai, mais en l'occurrence, c'était pas le cas, et c'était. Il y avait eu un choix de photos qui avait été fait par la personne à qui elles appartenaient, qui était évident de ne pas avoir l'image de la mère de la petite fille. Et c'est ce que ça me fait rebondir sur ce que vous disiez. En fait, la photo, c'est très très vite une fiction. Même pour les gens de la propre famille. Mais alors bon, dès lors qu'elle est regardée par quelqu'un d'autre, la photo, c'est une fiction.
Allez, on s'intéresse ce matin aux photos de famille. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.
Faux, ça n'est pas caché. 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 Ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde. Mais ouais, malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches. Les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien, c'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien, c'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi.
Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché.
Malgré les apparences, vit le bleu seul sous le berge. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige.
Batlik interprété Avalanche.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
Et on s'intéresse ce matin aux photos de famille. Alors l'album de famille est lié évidemment au bonheur, au plaisir, au temps heureux des naissances, des anniversaires, des vacances. Mais un album raconte également les non-dits de l'histoire familiale. La mort, la maladie, les conflits, les drames. Christine Olivucci, je rappelle que vous avez publié en poche ces photos qui nous parlent.
Oui, sur les non-dits.
Sur les non-dits,
ce qui n'est pas dit,
des secrets.
Ce qui est éventuellement montré sans être montré, en tout cas ce qui n'a pas été parlé, et qui justement, c'est là que l'image est intéressante, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le visuel sans qu'aucune parole n'ait été prononcée. Et à partir de ce visuel, on va pouvoir reparler. Alors, dans les non-dits, on a tout ce qu'on veut. Hein. Mais en l'occurrence, la question de la maltraitance et de l'inceste apparaît sur les photos de famille et a rarement été parlée dans les familles.
Mmh. En ouvrant un album de famille, nous pénétrons dans les névroses familiales ?
Ah oui, dans les névroses, voire les psychoses. Ça, c'est clair, dans les névroses familiales.
Mais
oui,
comment ça se voit ?
D'abord, il y a ce que va en dire la personne, parce que c'est pas moi qui analyse non plus. Hein. Ce que va en dire la personne, ce qui va lui apparaître, ce qui va parfois servir de support à des ressentis, à des suppositions de ce qui a pu être vécu. Et la photo va venir appuyer les dires. Donc ça peut être aussi en sens inverse. Après, sur les non-dits, ça peut être aussi des personnes qui sont complètement absentes, hein, qui ont été éradiquées de la mémoire familiale pour des causes qu'il faudra évidemment peut-être interroger, des surreprésentations qui vont venir faire écran aussi à certains. Donc tout ça est tout un travail qui fait partie du travail aussi analytique et qui prend en compte tout ce qui est déjà dit de l'histoire familiale, bien sûr.
Guillemette Odissino.
Et puis il y a en dehors de la famille elle-même, il y a aussi le contexte. Enfin, moi, ça me fascine ces photos donc vernaculaires où on sent aussi, par exemple, qu'à un moment sur une photo de famille, une famille modeste, a voulu un peu se pousser du col, il y a ce côté cette manière de se mettre en scène et de se créer une étiquette qui n'est pas forcément la bonne et tout. Ça raconte aussi la France, ça raconte ce qu'on doit être sur la photo, non ?
Oui, une mise en scène. Mise en scène d'une image la plus lisse possible. Et ensuite, c'est on regarde derrière cette façade.
Et puis certains ne montrent jamais leurs photos de famille, les cachent par honte.
Oui, quand il y a ce qu'on peut appeler une honte qui est liée à une famille dont on souhaiterait ne pas être issu, en effet, ça peut être la névrose de classe aussi, on peut faire abstraction de ses origines. Donc de ces photos de famille.
Christine Lapelle-Edouard de Psychologie Magazine.
Et puis il y a les personnes qui captent les photos de famille, qui les gardent, qui en font de la rétention et qui ne veulent pas les faire circuler au sein d'une famille, qu'elle soit plutôt étroite ou élargie. Et ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il est parfois et souvent très difficile d'arriver à récupérer des photos ou des copies de photos. Alors là, on peut se poser la question de savoir ce qu'il y a derrière. Ben, pourquoi ?
C'est un pouvoir. Les souvenirs.
Mais pourquoi ne pas les partager, pouvoir les garder ? Est-ce qu'il y a une compensation dans une histoire ? Est-ce qu'il y a...
Ce sont généralement des histoires de famille où il y a en effet une forme de captation de l'autre, une emprise, des structures qu'on appelle vampiriques aussi, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'arroge un pouvoir sur l'autre. Voilà, et donc l'autre est objet de cette... n'est là que comme objet enfermé dans un album.
Isabelle Monin, je rappelle que vous avez publié Les gens dans l'enveloppe.
Et oui, par rapport à ça, il y a aussi dans les familles... alors effectivement, il y a les gens qui gardent les souvenirs, l'histoire et les photos de la famille parfois jalousement, mais il y a aussi ceux qui peuvent n'en avoir rien à faire. Et en l'occurrence, moi, j'aurais jamais pu faire ce livre si quelqu'un n'avait pas dû, en fait, je m'en fiche de ces vieilles photos, et les avait abandonnées à un brocanteur qui, de fil en aiguille, a fait que bon, moi j'ai pu les acheter en bout de course.
Mais en fait, ce que
c'est pas forcément un fétiche auquel on doit forcément s'accrocher. Mmh. Si les photos racontent, enfin je pense, hein, une histoire qui est pas géniale, c'est pas forcément très grave de s'en détacher. Je pense.
Mais justement, ce que vous disiez est très intéressant, parce que la personne dont vous parlez qui s'est détachée de ces photos avait en réalité, et derrière il y a toujours une raison, et la raison, c'est ce que vous disiez, c'est que cette personne avait un compte à régler avec sa propre mère, et donc vidant la maison a lâché les photos,
comme et d'ailleurs le reste, pas spécialement les photos, il a tout
entre autres.
Isabelle Monin, en enquêtant sur les gens sur la photo, vous vous demandez quel mauvais souvenir vais-je réveiller.
Oui, ça, c'est une amie qui me dit ça. J'ai des amis pessimistes, donc
sont elle m'a dit,
mais t'imagines si tu tombes sur un drame horrible familial. Et bon, moi, je pense que dans toutes les familles, il y a des mauvais souvenirs, donc ça m'inquiétait pas plus que ça. Mais effectivement, la question que je me posais, en fait, qui me taraudait pas mal, c'était pourquoi on les a abandonnés. Et sans doute inconsciemment, le roman que j'ai écrit avant de retrouver les gens, c'est un roman qui parle de l'abandon. Donc effectivement, je pense que les photos, elles parlent beaucoup, même quand il n'y a pas de légende, et même si elles sont muettes, elles disent beaucoup.
Christine Olivucci.
Oui, et ça parle en effet aussi d'une séparation possible qui passe aussi par le fait de se séparer, on va dire, concrètement, matériellement, de ces souvenirs-là. Alors, ça ne suffit pas, évidemment, mais dans un travail thérapeutique, on peut avoir aussi des personnes qui font un tri de photos et qui se séparent, après les avoir élaborées, de certaines photos. Maintenant, il peut y avoir aussi des descendants qui ne récupèrent pas les photos exactement pour les mêmes raisons. Il m'est arrivé, quand j'écrivais le livre sur les lieux, de visiter des maisons, parce que j'aime bien visiter les maisons. Il restait trois photos dans la chambre de cette vieille dame. Personne ne les avait récupérées. Toute la maison était vide.
Même plus que ça, si je peux me permettre. Moi, j'ai fait beaucoup de salons du livre, etc. avec ce livre qui est paru en 2015. Donc j'en ai fait vraiment beaucoup. Et j'ai vu pas mal de gens, en fait, venir vers moi, limite avec un carton, en disant « Alors là, on ne sait pas du tout quoi en faire. » Non, mais parce que c'est vrai que ça peut être très envahissant, oui, aussi. Hein. Oui. Et quand c'est des photos qui remontent à 50 ans... Il y a beaucoup de gens qui sont tentés de s'en séparer, je vous préviens quand même.
Vous nous écoutez ce matin, envoyez toutes vos photos.
Non, c'est bon, je n'ai pas assez de place.
Après, il y a des lieux, des archivages.
Il y a des gens qui s'occupent de les archiver.
Guillemette Odissino, à propos de non-dits sur les photos, vous vouliez revenir sur le travail du réalisateur Sébastien Lifshitz.
Oui, absolument, parce qu'on parlait de ces photos qui finalement sont aussi des portes ouvertes à la fiction. Vous en êtes la preuve, hein, Isabelle. Et en fait, finalement, heureusement qu'il y a des gens qui abandonnent leurs photos dans des cartons, parce que Sébastien Lifshitz, lui, depuis qu'il a 15 ans, au plus de Clignancourt, il a développé une passion pour ces photos vernaculaires. Il en a acheté une première à l'âge de 15 ans, et puis une deuxième, une troisième, et puis tout d'un coup, au bout d'un bon paquet, il s'est dit « Ah mince, je suis collectionneur, en fait ». Et donc, il a collectionné toutes ces photos. Alors, il y avait des photos de famille, il y avait des choses magnifiques, il y avait du sépia partout et tout. Et puis, quand même, au fur et à mesure, peut-être inconsciemment, il s'est dit qu'il avait quand même une bonne collection de photos au milieu de tout ça, où il y avait par exemple deux femmes posant l'une à côté de l'autre. Est-ce que c'était des sœurs? Est-ce que c'était des amies? Et puis non, il s'est dit non. Ces femmes, elles s'aiment. Et petit à petit, il a commencé à regarder derrière l'enveloppe, derrière la photo. Et il s'est aperçu en fait qu'il y avait une quantité incroyable de photos, dans les siennes et puis partout, qui en fait racontaient des histoires d'amour secrètes. Raconter des homosexualités cachées dans les années 50, 60, où c'était absolument impossible, évidemment, de poser deux femmes en train de s'embrasser, etc. Et ça, d'abord, cette collection parallèle qu'il a composée de ce genre de photos et tout, a donné, finalement, bon, c'est un grand réalisateur qui a fait beaucoup de choses, mais a donné ce documentaire absolument sublime qui s'appelle Les Invisibles. C'est d'ailleurs très beau que Les Invisibles partent d'une photo. D'une photo indice, comme vous le dites. Et avec ces invisibles, il a retrouvé, il a fait parler, en fait, tous ces amoureux empêchés de 20 ou 30 années avant, Et donc, en fait, ces gens qui, sur la photo, n'étaient pas dans leur vérité, eh ben, dans son documentaire, il leur a donné une parole de vérité, enfin. Donc, il y a vraiment... La photo a été un vrai déclic. Et là, il y a une exposition en ce moment, donc au cinéma du Centre Pompidou, du 4 octobre au 11 novembre. Non seulement le Centre Pompidou rediffuse tous ses films, y compris le tout dernier qui s'appelle Adolescente, qui vient encore d'être primé à Locarno, où il a quand même filmé pendant 5 ans deux adolescentes. Et surtout, il y a l'exposition de 400 de ses photos. 400, ça s'appelle, c'est magnifique, l'inventaire infini.
Allez, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.
What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even wanna hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that again, I would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care.
Lizzo sur France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et on s'intéresse encore quelques minutes aux photos de famille. Alors pour terminer, quel rapport vous entretenez avec vos albums de famille, Christina Pelledouelle de Psychologie Magazine?
Alors j'ai un rapport ambivalent. Vraiment ambivalent, je pense que je suis loin d'être la seule. Je suis contente de savoir qu'ils sont là, mais je les regarde peu souvent. Quand je les regarde, je suis contente. En général, c'est à la demande de mes enfants et en particulier de ma fille qui est très intéressée par l'image en général et donc qui aime se plonger là-dedans. Mon fils, moins. Et moi, j'ai un rapport vraiment ambivalent. Mais j'ai besoin de savoir qu'elles sont là, qu'elles sont à disposition, que je pourrais les regarder. Elles sont en vrac. Certaines ont été rangées, d'autres non. Je me dis toujours, comme plein de gens, un jour, je m'y mettrai.
J'organiserai le roman familial.
Voilà, je le ferai, je noterai tout pendant que je ne suis pas encore complètement gâteuse. Mais c'est assez ambivalent.
Vous avez encore quelques années avant d'être complètement gâteuse,
oh,
Christina. Guillemette Odissino.
Moi, mes albums de famille sont à côté de mon lit. Alors attention, hein, je suis pas... Et parce qu'en fait, ma table de chevet, c'est un grand coffre à l'intérieur duquel il y a les photos. Alors... et sur lequel sont posés des cadres à photos en plus. Donc régulièrement, on ouvre avec mes enfants ce gros coffre.
Le coffre magique.
Le coffre magique, il y a un bordel à l'intérieur absolument inouï. Mais le jeu, c'est d'en sélectionner une ou deux qu'on va mettre au mur. Et j'enlève certaines qui ont été au mur et je les remplace. Mmh. Et tiens, ça c'est une photo de mamie qu'on connaissait pas, elle est mieux, on va mettre celle-là.
C'est un joli rituel.
Et ça, voilà. Et ça, oh là là, vous faites une gueule sur cette photo quand vous aviez 5 ans. Ah ben, on va mettre celle-là, elle est plus marrante. Et en fait, ça tourne un peu comme ça.
Isabelle Monin, vous qui avez acheté donc 250 photographies d'anonymes, quel rapport vous entretenez avec votre propre album photo de famille?
Alors, de la famille dont je viens, j'ai très peu de photos. Je pense que... ça doit expliquer aussi pourquoi je m'intéresse beaucoup aux photos des autres familles dont je ne viens pas. Non, mes parents faisaient très peu de photos et c'est une famille plutôt de la campagne, on va dire, où vraiment il n'y avait pas de culture de prendre les gens en photo. Il y a quelques albums, mais qui sont chez mes parents. Et effectivement, je suis très contente de savoir qui sont là-bas. Je les regarde une fois par an. Il peut m'arriver de photographier avec mon téléphone une photo et de la poster sur Instagram. Voilà, ça c'est pour la famille dont je viens. Pour la famille que j'essaye de construire, que j'ai construit, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les photos argentiques qui sont dans une caisse très très pas rangée. Un jour, je me casse la jambe et j'aurai l'occasion de m'y mettre. Et puis il y a tout le numérique et là je ne sais pas ce que ça deviendra.
Il faut les envoyer
mais
à développer.
Je les aime.
Christine et Louis Vucci, votre rapport avec votre album de famille.
Alors, il y en a plusieurs. Disons que il y a un album de naissance que je trouve important d'avoir. Et d'ailleurs, je conseille à tous les parents qui ont fait des albums de naissance pour leurs enfants de donner à un moment donné cet album ou d'en faire de dupliquer, parce que voilà, ça concerne le contexte de naissance de la personne. Et puis des albums que j'ai fait moi-même à partir de photos un petit peu glanées de la famille, à partir de la naissance de mon fils, voilà. Et puis ensuite on est passé au numérique. Après,
vous les compulsez avec plaisir ?
Avec plaisir, oui, parce que moi j'aime la photo et que j'en fais aussi. Donc oui, on peut les regarder voilà. Peut-être ressortir des boîtes aussi, les boîtes de diapos, voilà. Mais tout il y a du vrac aussi. Hein.
Merci beaucoup Christine Olivucci. Vous avez publié ces photos qui nous parlent, une relecture de la mémoire familiale chez Payot. Isabelle Monin, Les gens dans l'enveloppe, c'est publié chez La Teste. Vous l'avez écrit avec Alex Baupin.
Il a écrit les chansons
qui accompagnent évidemment.
Ils sont tout aussi géniales que le livre.
Ils sont géniales. Oui.
Merci Christine Appelé-Douel de Psychologie Magazine. Merci à la programmation musicale de Marielle Pérez. Merci aux standardistes de France Inter. Nous attendons lundi toutes vos questions sur l'intimité féminine, toutes vos questions gynécologiques en partenariat avec Santé Magazine. Standard ouvert dès 9h au 01 45 24 7000 et dès maintenant sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la technique ce matin, Pauline Laverdure. À suivre, Nagui et sa bande originale.